Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. D'où je parle et d'où je pense. Je suis née à Paris d'une mère catholique et d'un père juif déporté à l'âge de 4 ans. Ils s'étaient rencontrés à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris où ils venaient tous les deux travailler et étudier. Ma mère était d'un anticléricalisme viscéral. Elle était la première fille de sa famille à obtenir le bac et à faire des études supérieures. Elle est née à Baugée, où son père était dentiste. Mon père, après la déportation, avait subi des études chaotiques et avait raté le bac. Il était issu d'une famille bourgeoise nancéenne. Son père était ingénieur et chef de service. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père Barret avait été soldat du côté de Vichy, puis rendu à sa famille à la naissance de sa troisième enfant. Mon grand-père Veil avait été sous-officier et prisonnier de guerre en Allemagne, tandis que sa femme et ses deux enfants, en bas âge, avaient été déportés. Mes deux grands-mères avaient vécu une vie de femme au foyer. L'une et l'autre se sont attachées à ce que leur fille fasse des études et s'émancipe. Irène Barret, ma grand-mère maternelle, me racontait les restrictions alimentaires et l'occupation allemande. Elle me racontait surtout le débarquement où son père, résistant, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, avait creusé une tranchée dans le jardin du village normand où il habitait parce qu'il connaissait le jour du débarquement. Mon arrière-grand-mère ne savait pas que son mari était résistant. Je n'ai jamais connu mon arrière-grand-père maternel. Il est mort avant ma naissance. Il a sauvé sa femme et ses voisins. Leur maison ont été totalement détruites. Odette Veil, ma grand-mère maternelle, me racontait l'odyssée de la déportation. Je l'ai racontée dans mon récit « Il ne faudra plus raconter des histoires » Le livre de Jean, 1942-1945, « Un enfant dans les camps », publié chez l'Harmattan en avril 2025. Pour mes deux familles, j'étais une enfant vengeance, réparation, consolation, réconciliation. Je sais que mes grands-parents Barret et Veil ont passé des vacances ensemble sans mes parents et sans moi. Il y a des photographies d'eux dans leurs albums respectifs. Pourtant, mon grand-père Veil était socialiste et mon grand-père Barret avait une idéologie d'extrême droite. Mais André Barret adorait et admirait ma mère, Annick Veil-Barret, professeure des universités. Il avait donc décidé que tous ceux qu'elle aimait étaient dignes d'amour et d'admiration. Il adorait donc mon père puisque ma mère l'aimait. Il avait été orphelin très jeune et mis très tôt en pension. Sa culture et ses lectures venaient des auteurs d'extrême droite. Dans les années 30, il n'y avait pas CNews, mais il y avait nombre de journaux fascistes. C'était ses lectures. Il avait cru à la fable du maréchal Pétain qui avait sauvé la France. Il avait détesté les Boches, mais avait cru à Vichy. Il n'était pas particulièrement antisémite, mais il était raciste envers les autres minorités. Jean, mon père, pour lui, n'était pas un juif. C'était son gendre adoré. Mes deux grands-pères m'ont offert des livres. Malgré une éducation commune très misogyne, ils m'ont considéré comme un homme comme les autres et m'ont investi comme une personne qui aurait la mission de transmettre leurs histoires. Le livre et la lecture a été le lien entre mes parents et moi, entre mes grands-parents et moi. Dès la petite enfance, j'ai posé de nombreuses questions et débattu avec mes deux familles. J'ai aussi eu la chance de vivre la pédagogie Freinet à l'école maternelle de Paris 8, où les enfants de tous les personnels qui travaillaient à l'université étaient scolarisés. J'y ai appris l'autonomie, la coopération, l'émancipation et le goût de la recherche. Mon père disait que ce qui lui restait de la religion juive, c'était l'amour inconditionnel des livres et les questions aux multiples réponses. On peut dire que de la Seconde Guerre mondiale, dès ma naissance, j'en avais deux représentations, deux France totalement opposées, deux familles bourgeoises ordinaires, d'une part des collaborateurs passifs, et d'autre part des victimes auxquelles on a reproché de ne pas avoir su évaluer le danger, et quand ils sont revenus, c'est surtout le cas de mon père, en très bonne santé mentale, capable d'une empathie rare envers tous les enfants, c'était louche. Peut-être même la preuve d'un mensonge. J'ai encore l'image de mon père qui tient des skis sur ses épaules à la billetterie de la gare de Lyon et qui tend sa carte d'invalidité. Le guichetier lui refuse violemment la réduction à laquelle il avait droit et l'accuse d'être un usurpateur. Jean demande à voir son chef. Il finit par recevoir des excuses. Je me souviens aussi de l'accusation d'être un faux déporté par une responsable de la culture à la Flèche. Il n'a jamais reçu d'excuses publiques. J'ai enfin pu observer de près que l'amour des enfants était l'avenir de l'humanité, comme l'écrivent si bien Gaël Faye et Christiane Taubira dans la chanson « Seul et vaincu ».
Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants.
J'ai donc très vite admis que la réalité était multiple et insaisissable, mais qu'il fallait tenter de la raconter, surtout quand on a l'expérience intime de ce que l'extrême droite produit de sidération, de déni, de compromission et de meurtre. Malgré moi, j'ai de l'avance, d'autant que mon père et ma mère m'ont enseigné la clairvoyance alliée au désir insatiable de savoir. Je vais donc essayer de comprendre d'où viennent le déni et la silenciation de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, définissons les mots « déni » et « silenciation ». Selon le dictionnaire historique de la langue française, le déni provient du verbe « dénier », un verbe transitif attesté pour la première fois en 1160, est soit composé en français de « dé » et « nier », soit emprunté avec adaptation au latin « dénégaré », nier fortement, dire que non, refuser, formé de la particule « de » intensive et de « négaré ». Le déverbal « déni », apparu vers 1250, signifie d'abord « action de dénier ». Sens aujourd'hui littéraire et rare. Il entre dans l'expression « déni de justice » 1667, désignant le refus d'un juge de remplir un acte de sa fonction malgré deux réquisitions successives. « Déni » est récemment passé dans le vocabulaire de la psychanalyse. Pour traduire l'allemand, par lequel Freud désigne le refus de reconnaître une réalité dont la perception est traumatisante pour le sujet. Selon Wikipédia, le sens psychanalytique de déni est donc, en effet, le refus inconscient de prendre en compte une partie de la réalité vécue comme inacceptable par l'individu. C'est un mécanisme de défense par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme menaçante et ou traumatisante.
Sur le site de l'association d'aide aux victimes des dérives des mouvements religieux en Europe et à leurs familles, un article est consacré au déni à partir du livre de Serge Tisseron intitulé « Le déni ou la fabrique de l'aveuglement » publié chez Albin Michel. Le déni n'est pas une erreur de jugement, c'est un bras de fer que l'on tente d'opposer à la réalité, aux autres et à soi-même, et dont on ne sort jamais vainqueur. Des erreurs de jugement jouent pourtant souvent un rôle important dans la mise en place d'un déni, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Le biais de confirmation, c'est la tendance très commune à ne rechercher et à ne prendre en considération que les informations qui confirment nos croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Le biais de normalité, il consiste à croire que les choses fonctionneront à l'avenir comme elles ont fonctionné dans le passé et donc à sous-estimer, par exemple, la probabilité d'un événement exceptionnel. Le biais de disponibilité, il nous fait imaginer comme probable un événement qui nous vient facilement à l'esprit et peu probable, un événement dont nous n'avons pas d'exemple en tête. Le biais de croissance exponentielle, notre cerveau est optimisé pour faire des additions et traiter une croissance linéaire et non pour traiter une croissance exponentielle. Je pense qu'ici vous avez besoin d'un exemple. Par exemple, le fait que le rapport de la SIAZ mentionne des milliers de victimes d'abus pédocriminels commis par les prêtres, 216 000 personnes de 1950 à 2020, est contesté par l'Académie catholique de France car ce chiffre inattendu, bien qu'il soit extrapolé de manière scientifique par des experts de l'INSERM et des sociologues, ne peut que paraître exagéré. Le biais d'optimisme, l'illusion positive. Il s'agit d'une évaluation exagérée de nos capacités. Ce qui arrive à d'autres ne peut pas arriver à nous, et cela concerne aussi bien notre personne que le groupe auquel nous appartenons. Le biais de conformisme, c'est la tendance à penser et à agir comme les autres. Pourquoi changer mon comportement quand je vois autour de moi des personnes qui ne changent rien ? C'est donc grâce à ces biais cognitifs que nous entrons dans la prison du déni. Le déni, citation de Serge Tisseron, « Le déni est un mensonge que l'on se fait à soi-même pour s'opposer à une réalité que l'on ne peut ou ne veut pas accepter. » Autre citation. Dans le déni, en revanche, il ne s'agit plus seulement de se tromper sur le monde, mais de s'enfermer dans un monde dont la raison d'être est la place que j'y occupe. Là où le biais cognitif est passif, et destiné à éviter un effort mental, le déni, lui, est une croyance maintenue contre la réalité. Et à ce titre, il nécessite un effort mental important. Autrement dit, passer du biais cognitif au déni, c'est changer de référentiel. Avec le biais cognitif, je vois certaines réalités de travers. Avec le déni, il ne s'agit plus seulement d'une erreur de jugement sur le monde, mais de la place que j'y occupe. Celui qui adhère à un biais cognitif ne met pas son identité en jeu, alors que la dimension identitaire est au centre du déni. Nouvelle citation de Serge Tisseron. C'est pourquoi il est si difficile de faire sortir quelqu'un d'un déni. Il ne va pas seulement de la reconnaissance possible d'une erreur de jugement, il en va de son être au monde, c'est-à-dire de la façon dont le monde qu'il s'est construit soutient son identité. C'est pourquoi, comme le montre la stratégie d'Œdipe, et la fable des habits neufs de l'empereur, la sortie d'un déni est souvent tragique pour celui qui s'y est engagé. En effet, quand Œdipe découvre qu'il a tué son père et épousé sa mère, tout son monde s'effondre. Il se crève les yeux pour mieux voir et devenir clairvoyant, puisque sa vue ne lui a servi à rien. Quand on lit avec attention Œdipe roi de Sophocle, il est évident que sa mère sait, que sa mère-femme sait, puisqu'elle lui recommande de ne pas aller chercher ses origines en lui prédisant qu'il en tirera uniquement du malheur. En effet, découvrir la vérité quand on sort du déni, c'est tomber du quatrième étage. Je montrerai dans les prochains épisodes sur la silenciation et le déni du nazisme en France comment les victimes et les bourreaux se sont employés à recouvrir l'histoire par le déni. D'après un article du Monde en ligne publié le 3 septembre 2025, le terme « silenciation » aurait été utilisé et théorisé pour la première fois par la philosophe britannique Rae Langton, dans son article « Speech, Acts and Unspeakable Acts »,
Acte de langage et acte indicible, paru en 1993. Toujours selon le site du Monde, le terme sera ensuite repris par d'autres chercheurs, comme la philosophe britannique Miranda Fricker en 2009 ou la philosophe américaine Christy Dodson en 2011. Côté francophone, le mot « silenciation » apparaît dans les années 70, mais il n'est quasiment jamais employé. Il faut attendre les années 2020, explique Élise Huchet, docteur en philosophie, pour que la notion se répande, portée par la vague MeToo et l'attention nouvelle accordée aux personnes invisibilisées. Dans le même mouvement, le verbe « silencier » fait son entrée dans le Petit Robert en 2022. Si ces termes ont émergé avec le mouvement MeToo, c'est parce que la silenciation est intimement liée au rapport de pouvoir. Être puissant, c'est avoir parfois la capacité de silencier des personnes sans pouvoir, écrit Rae Langton. Le silence n'est pas neutre, abonde Élise Huchet, autrice d'une thèse sur l'inaudibilité sociale. Il est le fruit de mécanismes sociaux de domination et d'oppression. Les personnes qui risquent le plus d'être silenciées sont les enfants. Le mot « enfant » vient du latin « infans », celui qui ne parle pas. Mais aussi les femmes, les personnes racisées et plus largement, toutes les minorités. Certaines silenciations sont explicites, imposées par la contrainte. Il s'agit de bâillonner, de menacer ou d'isoler. Mais la silenciation peut aussi être implicite. Elle survient lorsque les conditions d'écoute ne sont pas réunies ou que les normes sociales rendent des propos tabous. Il faut enfin souligner que, paradoxalement, la silenciation n'implique pas l'absence de parole, poursuit Élise Huchet. Lorsqu'une personne s'exprime et que sa parole n'est pas suivie des faits, elle est aussi silenciée. C'est le cas quand une femme dit non à un rapport sexuel et que l'acte a lieu malgré tout. Ou d'un enfant qui raconte les agressions qu'il subit sans être cru par l'adulte à qui il se confie. Dans tous les cas, les conséquences de la silenciation sont dévastatrices au niveau tant individuel que collectif. Sur le plan clinique, observe Laurence Joseph, une personne silenciée reste prisonnière de son histoire traumatique, qu'elle est condamnée à revivre sans cesse au présent. Et d'ajouter, à l'échelle de la société, lorsque des groupes sont silenciés, les rapports de domination perdurent et les lois n'évoluent pas. Ainsi, il a fallu attendre 1990 pour que la Cour de cassation française reconnaisse le viol conjugal et une loi de 2016 pour que l'adjectif « incestueux » soit inscrit dans le code pénal. C'était un long extrait de l'article « La silenciation ou comment les victimes de violences sont contraintes de se taire » par Ariane Ferrand. Dans les épisodes suivants, je montrerai combien le déni est à la fois du côté des victimes et des bourreaux, et comment la silenciation est exercée par le prédateur pour empêcher la victime de sortir de son état victimaire. Et aussi pour empêcher, comme le dit l'article du Monde, l'évolution des lois. J'irais même jusqu'à dire pour prolonger l'impunité des prédateurs. C'était ma rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation, le premier épisode intitulé « Pour une définition du déni et de la silenciation ». D'où je parle et d'où je pense.